Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice, ce soir qui va s'intéresser à la garde à vue en compagnie de maître Thierry Chevillard. Oui, en effet, ce soir, je vous propose de vous plonger dans les drames intimes, dans les violences petites et grandes, visibles ou invisibles, qui blessent notre corps social. Et de prendre pour guide celui qui est peut-être le mieux placé pour les constater, mais aussi peut-être pour tenter de les adoucir. Je veux parler de l'avocat de garde à vue. L'un d'entre eux, qui était aussi écrivain, a réuni quelques-unes de ses affaires dans un ouvrage intitulé « Commis d'office, chronique de garde à vue septembre 2017-novembre 2019 » et c'est publié aux éditions Louis de Mareuil. Bonsoir Thierry Chevillard.
Bonsoir Monsieur Garapon.
Alors, commis d'office, c'est quelque chose peut-être que nos auditeurs connaissent, mais probablement ils ne savent pas que vous autres avocats avez pu être commis d'office que depuis assez peu de temps dans les commissariats de police.
Oui, tout à fait, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on intervient enfin dans la garde à vue. Alors c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, si vous voulez, lorsque la personne est placée en garde à vue, il y a un grand stress qui l'habite, ce qui est tout à fait normal, parce qu'à vrai dire, c'est quelque chose d'anormal, la garde à vue. Hein, vous n'avez plus de lacets, vous n'avez pas de ceinturon.
Parfois, on vous met d'ailleurs dans un commissariat, on vous donne une tunique parce qu'il y a tellement de puces de lit qu'on veut pas que les vêtements soient affectés.
Absolument, absolument.
Vous avez vu ça, expliquez-nous.
Oui, tout à fait, oui, c'était dans le 18e arrondissement, rue de l'Évangile.
Rue de l'Évangile, pour parler des gardes à vue.
Il y a eu, malheureusement, le commissariat a été infecté de punaises de lit et tous les gardés à vue avaient une combinaison blanche. Alors, les hommes, parce que moi j'ai croisé des hommes gardés à vue, se sentaient humiliés dans cette combinaison blanche.
Pourquoi ?
Ils se sentaient humiliés parce que ils avaient l'impression de ressembler d'une certaine façon aux détenus américains en combinaison orange.
Tout de suite l'imaginaire du prisonnier, du maudit, du rejeté.
Voilà, tout à fait, oui. Et celle que je défendais à ce moment-là, qui était une jeune mineure de 13 ans, était en combinaison blanche et ça l'insupportait aussi.
On peut être en garde à vue quand on a 13 ans ?
Oui, on est en rétention. Elle avait juste plus de 13 ans, donc la rétention est terminée, donc elle peut être placée en garde à vue.
Et qu'est-ce qu'on lui reprochait à cette gamine ?
C'était un vol dans le métro, elle avait volé une touriste japonaise. C'était, je crois, dans le portefeuille, il y avait 300 ou 400 euros.
Alors, le rôle de l'avocat, c'est d'intervenir, mais vous avez un laps de temps très très bref.
Voilà, on a une demi-heure, alors il faut comprendre très vite la situation. Il faut savoir aussi que les personnes ne disent pas la vérité, donc c'est un gros problème. Il faut savoir lire entre les lignes, il faut poser les bonnes questions. Donc il y a beaucoup de mensonges de la part des gardés à vue. Donc il faut le savoir et il faut être préparé à ça. Et après, il faut un petit peu voir quel va être l'avenir de la personne. Il faut poser des questions par rapport à son passé pénal, sa situation sur le territoire national. Est-ce que c'est une personne en situation irrégulière ou pas ? Pour essayer de se projeter, parce que les gens, dans l'angoisse, disent « qu'est-ce que je vais devenir ?» Et il faut pouvoir, d'une certaine façon, répondre à cette question. C'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce que, tout d'un coup, le stress tombe.
Et là, on peut travailler un peu mieux.
Oui, et il n'y a pas d'insulte de la personne vis-à-vis des forces de police, il n'y a pas d'insulte sur l'avocat, etc., etc. Donc, il y a une sorte de calme qui arrive. C'est pour ça que l'avocat est très important, parce que si on fait bien son job, si on fait bien son travail, on peut faire en sorte que les gens s'apaisent. Et une fois que les gens s'apaisent, ils réfléchissent mieux par rapport à leur situation. Parce que s'ils ont commis les faits, pourquoi le nier ? Ça ne sert à rien. S'ils n'ont pas commis les faits, à ce moment-là, ils construisent leur défense eux-mêmes. C'est important d'être apaisé. Mais avant que les avocats n'interviennent, les gens ne pouvaient pas être apaisés. Parce que c'est une situation extrêmement stressante.
Mais c'est un face-à-face avec l'autorité. C'est un face-à-face cru avec l'autorité, avec la police.
Oui, et c'est surtout l'angoisse du devenir.
Ah oui.
Est-ce que je vais aller en prison ? Est-ce que je vais aller en prison ? Et si je vais en prison, je vais y aller pour combien de temps ? Et nous, justement, on peut répondre à ces questions. Parce qu'on a suffisamment d'expérience pour savoir un petit peu quelle va être l'orientation du dossier. Et ça, c'est très important.
Vous avez une vision d'ensemble de la chaîne pénale.
Voilà. C'est là où on est très fort. C'est là où on est très fort. On commence par la garde à vue et on va jusqu'à la cour d'appel, jusqu'aux appels correctionnels ou aux cours d'assises. Donc on sait un petit peu comment va s'orienter le dossier. Si les faits sont pas graves, et même si la personne a été plusieurs fois condamnée, on peut indiquer qu'il peut y avoir ce qu'on appelle la CRPC, la reconnaissance préalable de culpabilité.
Alors expliquez à nos auditeurs ce que c'est que la CRPC.
C'est-à-dire, lorsque la personne est placée en garde à vue et qu'elle reconnaît la commission de l'infraction, le procureur de la République peut proposer une peine. Et donc la personne est soit déférée, soit à une date d'audience, de proposition de peine. La personne est accompagnée d'un avocat commis d'office, et cet avocat analyse la peine au regard du passé de la personne, au regard de l'avenir, et si la peine apparaît juste, l'avocat lui dit « vous pouvez accepter cette peine ». Ça peut être de la détention, mais ça peut être de la détention avec une peine aménageable. Donc il y a, si vous voulez, il y a plusieurs degrés qui font que la personne est apaisée et la personne peut comprendre où est-ce qu'elle a mis les pieds.
Alors là, vous parlez d'une personne qui est surprise, qui est prise à froid. On va y revenir, il y a beaucoup d'exemples. Mais si on revient à cette mineure, en l'occurrence, elle n'était pas vraiment prise à froid, elle. On était dans un autre contexte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, c'est le contexte, malheureusement, des jeunes filles roms. Il faut absolument voler, il faut ramener de l'argent, c'est un impératif. Elle avait une vie chaotique, elle connaissait pas ses parents, elle avait été élevée par une grand-mère qui n'était pas sa grand-mère. Et on voit l'avenir, on sait qu'elle sera mariée à 15 ans, on sait qu'à 16 ans elle aura des enfants, c'est terrible. Et si vous voulez, pour se vêtir, elle est obligée de voler. Mais c'est incroyable. Donc elle a ému l'OPJ, l'officier de police judiciaire qui était une femme. On était à 2h du matin, j'étais ému, l'interprète était ému.
Oui. Alors vous avez cette phrase dans votre livre, parce qu'à chaque fois vous commentez les situations par des phrases très incisive, très brève. Vous dites cette l'enquêtrice est au bord des larmes, révoltée par cette organisation clanique où les enfants sont les forçats du vol.
Oui, absolument. Ils doivent ramener de l'argent. C'est un impératif. S'ils ne ramènent pas d'argent, ils ne mangent pas et ils ne s'habillent pas.
Mais alors là, il y a aussi autre chose, c'est que cet enfant ne sait pas écrire.
Non.
Ouais. Et il se passe quelque chose.
Extraordinaire. Extraordinaire parce que, si vous voulez, devant les cris, elle est restée interdite devant les cris. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de magique d'écrire. Et je lui ai dit, vous pourriez aller à l'école et apprendre à écrire. Et je lui ai montré comment on pouvait écrire. Et là, comme réponse, pour me remercier de ceci, elle a écrit son prénom. Elle a écrit son prénom.
Sur le PV.
Oui. Et c'est extraordinaire parce que, d'une certaine façon, elle m'a dit en écrivant son prénom, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que j'aimerais bien apprendre à écrire. Et c'est incroyable.
Parce que j'aimerais bien apprendre à écrire, c'est dans le fond une demande de normalité de sa part. D'avoir une vie de gamine, quoi, et pas d'être exploité par cette organisation
clinique du vol. Oui, mais pour elle, c'est pas la normalité d'apprendre à écrire.
C'est ça,
la
exactement. Normalité... Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'elle vit dans une sorte de règle totalement marginale et extérieure à l'habitus, à la société française.
Absolument. La normalité, c'est voler et se marier à 15 ou 16 ans. Voilà la normalité. C'est terrible. C'est terrible parce que Elle est logée dans des caravanes à Montreuil. Montreuil, c'est le 93, c'est à côté de Paris. On n'est pas dans l'ex-Yougoslavie.
C'est ça. Et alors, donc, ça veut dire que l'avocat que vous êtes, Maître Chevillard, doit non seulement saisir des faits, vous avez accès au dossier complètement.
Non.
Vous n'avez pas accès au dossier.
Non.
Pourquoi ça
Alors, c'est la loi. C'est la loi qui le veut. On n'a pas accès au dossier, on a accès à la notification du placement en garde à vue. La notification du placement en garde à vue, c'est-à-dire les faits qui sont reprochés, l'heure du placement en garde à vue. Et l'avis à famille, médecin, avocat. Voilà. On a la notification, mais on n'a pas accès au dossier. Donc, s'il y a des filatures, s'il y a des écoutes téléphoniques, s'il y a d'autres actes d'enquête, on n'a pas accès au dossier.
C'est une situation extrêmement angoissante, parce que vous n'avez que la parole de quelqu'un qui, a priori, vous ne faites pas confiance. Il faut à la fois gagner sa confiance, deviner les faits et faire une évaluation psychologique de la situation.
Oui. Il faut aller très vite parce que vous avez
une demi-heure.
Et vous ne pouvez pas dépasser une demi-heure. C'est la loi. Donc il faut de l'expérience, professionnelle. C'est vrai qu'un jeune avocat peut commettre des erreurs. Il peut même enchaîner les erreurs.
Par exemple.
il peut dire « ne, c'est pas grave » alors que c'est extrêmement grave. Il peut dire « vous inquiétez pas » alors que la personne va partir en détention. Il peut appeler la famille, ce qui est une grave erreur, parce que en appelant la famille, ça peut être un code, et les stupéfiants doivent disparaître. Il faut faire très attention où on met les pieds.
Parce que
très
attention. C'est une situation qui est très inconfortable à ce moment-là. Encore plus inconfortable, j'allais dire, que d'habitude, parce que l'avocat est pris entre deux feux.
Oui. Il faut être très rigoureux. Et quand la famille, si vous voulez, vous appelle, il faut absolument, absolument ne rien dire. Absolument ne rien dire. C'est très important. C'est très important. Parce que des membres de la famille peuvent être sur écoute. Et ça peut être un dossier beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Quelqu'un qui transporte une arme, un couteau, ça semble banal, sauf si le couteau a servi à un meurtre. Parce que il est allé le cacher, ce couteau. Voilà. Et si vous avez appelé la famille, vous participez à une infraction qui est de faire disparaître des preuves d'un crime.
Oui, alors, et Thierry Chevillard, il y a aussi une autre dimension qui est assez nouvelle également, mais qui est très bien intégrée dans le travail des policiers, dans votre travail à vous, c'est la caméra, c'est l'image.
Oui, absolument. Alors, c'est nécessaire pour les mineurs. En ce qui concerne, bien évidemment, les mineurs, mais surtout les dossiers d'assises.
Ah oui.
Ça, c'est les crimes. C'est très important parce que, en garde à vue, si vous voulez, tous les mots comptent. Et certaines personnes, certains accusés ou certains mis en cause reviennent en disant « j'ai jamais dit ça ». Et là, c'est une façon de démontrer que les choses ont été dites. Parce que on est dans la garde à vue, soit c'est un flagrant délit de viol, de meurtre, d'assassinat, soit c'est une enquête préliminaire qui débouche sur l'arrestation. Mais derrière, la police judiciaire a énormément d'éléments.
Parce qu'elle a à la fois, on dirait en termes un peu cuistres, elle a à la fois l'énoncé, ce qu'a dit la personne, mais on a aussi l'acte d'énonciation. Comment il l'a dit ?
Absolument, oui, oui. Alors, les films ne sont pas forcément visionnés, mais si vous voulez, c'est une façon...
Ils sont là.
C'est une façon de pas commettre d'erreur, si vous voulez. C'est très important parce que si la personne devant un juge d'instruction dit « j'ai jamais dit ça », on vérifie. Moi, j'ai eu un dossier de viol sur mineur. Je suis pour la victime. Ça revient en appel devant la cour d'assises de Bobigny en appel. Le père a été laissé libre parce que il y a un PV de la jeune mineure qui avait été violée, qui a été mal transcrit. Sur question de l'officier de police judiciaire, il lui avait été demandé si oui ou non elle avait dit ça pour quitter le domicile familial. Elle avait dit non et ça a été transcrit en oui. Donc il a été.
C'est quand même une faute professionnelle, ça, Maître Chevillard.
Mais si vous
c'est
voulez,
une erreur.
48
en fait,
heures.
C'est une erreur.
48 heures de garde à vue.
Voilà,
48 heures de garde à vue. Et en plus, l'OPJ qui a auditionné la mineure, elle s'attendait pas à un viol incestueux qui avait débuté lorsqu'elle avait 6 ans et demi, 7 ans.
Qui a duré des années.
Jusqu'à l'âge de 17 ans.
11 ans.
Ouais. Donc, si
régulièrement,
vous voulez,
plusieurs fois par semaine.
Et dans son PV, l'officier de police judiciaire commence gentiment sur des agressions intrafamiliales. Ça commence par des agressions intrafamiliales. Donc, c'est léger. C'est léger sans ITT. Sans ITT.
Sans
interruption temporaire de travail.
C'est-à-dire, il n'y a pas rien de visible sur le corps.
Il n'y a pas de blessure. Et tout d'un coup, ça bascule sur le viol incestueux. Donc tout le monde est... Et d'ailleurs, dans le PV, l'OPJ fait une pause en disant « nous en référons au capitaine, etc. etc. » Voilà. Donc si vous voulez, on peut commettre...
Alors,
mais le problème, c'est que le père n'a pas été placé en détention à cause de cette erreur, parce que le juge des libertés, dans sa décision, a visé la réponse
bien sûr,
de la mineure
bien sûr.
En disant « il y a une ambiguïté, je ne peux pas le placer en détention. »
Bien sûr, et aux assises, cette ambiguïté a été levée dans une
Absolument.
Condition assez dramatique.
Oui, oui. Tout à fait, oui. Ça a été levé parce qu'il a fallu reprendre le PV, reprendre le film et démontrer à l'évidence, qu'elle avait jamais dit qu'elle avait accusé son père pour quitter le domicile.
Alors là, on y reviendra pour la garde à vue, mais pour l'assise, vous êtes à côté de votre cliente qui est partie civile, vous êtes à moins de 2 mètres de l'auteur.
Oui. Son père avait un regard très agressif me concernant. Il fermait les poings quand je lui posais des questions. Et je sentais à ce moment-là que la violence intrafamiliale avait vraiment existé, alors qu'il niait tout. Il niait évidemment les viols, mais surtout la violence intrafamiliale. Et quand j'ai parlé à ma cliente, la jeune majeure, je lui ai dit « ça devait être difficile chez vous ». Elle m'a dit « il fallait pas s'approcher de mon père, les baffes volaient facilement ». Voilà. c'est ce contexte de la cour d'assises qui permet de comprendre un petit peu et d'approfondir les faits.
Cette violence, parfois, Thierry Chevillard, vous la sentez en garde à vue. Pas la violence de la garde à vue, intrinsèque,
mais
la violence d'une famille, par exemple.
Oui, tout
Elle
à fait.
Elle est palpable.
Oui, absolument. Ou alors la violence d'un mineur. J'ai un texte sur ce mineur qui renverse
alors,
le bureau.
Alors ça, c'est très intéressant. On va revenir.
De l'OPJ.
C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez raconter en quelques mots cette garde à vue avec ce mineur?
Alors, Monsieur Garapon, comment ça se présente? C'est un mineur de 15 ans. Un mineur de 15 ans qui est suivi par le juge pour enfants, dont le frère aîné purge une peine criminelle. Criminel en centrale, donc une peine supérieure à 10 ans, dont l'autre frère est incarcéré à la maison de la santé, qui est lui-même connu, comme le jeune mineur, comme un caïd dangereux dans son quartier. C'est un caïd dangereux, il a 15 ans. Il a déjà donné des coups de couteau. Et ce mineur est interrogé sur un problème de recel de vol qui est assez banal. Ce sont des bouteilles de vodka, etc. Donc c'est pas grave. Il est interrogé. Et à un moment, l'OPJ lui dit « c'est pas bien ce que tu fais, tu avais l'interdiction de sortir de ton domicile à partir de 22h ». Et il répond « je m'en bats les couilles de ce qu'a dit la juge pour enfants ». Donc l'OPJ note « je m'en bats les couilles », etc., etc. Sauf que quand l'OPJ a voulu noter, il a dit « c'est pas vrai, j'ai pas dit ça ». Et d'énervement, il a pris le bureau de l'OPJ, l'a renversé. Mais c'est allé tellement vite que personne n'a pu réagir. Donc c'est un mineur extrêmement dangereux. Et préalablement, il me disait « est-ce que je peux dire ça, maître ?» Donc il me posait des questions en direct. Donc tout avait l'air normal. Et tout d'un coup, il explose. Il explose dans la violence.
Et vous avez intitulé ce chapitre « No frustration », pas de frustration. Pourquoi ce titre ?
Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas supporter d'abord l'autorité et surtout qu'on lui donne des indications. C'est pas possible dans son cerveau de recevoir des ordres, des indications, des conseils.
Même de son avocat.
Ouais. Donc c'est une cocotte minute ambulante. Donc un jour, il y aura un drame. C'est une évidence. Il y aura un drame. Et voilà. Et on ne peut pas arrêter ce drame. Et ça, je fais une petite parenthèse. C'est que souvent, dans ces gardes à vue, on voit les drames futurs arriver. On ne peut pas les arrêter. On n'a pas les moyens de les arrêter.
Est-ce que ça, c'est pas le tragique de la destinée humaine, ça?
Si, c'est le tragique de notre société. C'est exactement notre société. C'est-à-dire que dans un tel niveau de technologie, eh bien, des choses qui appartiennent d'une certaine façon à la préhistoire de l'humanité apparaissent d'une façon constante.
À la préhistoire ou à l'éternel humain?
Moi, j'ai envie de dire à la préhistoire parce que j'aimerais que les sociétés changent. Et je fais une nouvelle parenthèse. On dit souvent, mais de toute façon, vous savez, il y a une sorte, comment dirais-je, une sorte de fatalité au crime, ou à la commission d'infraction, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Parce que le but de la société, c'est quand même d'être heureux ensemble. C'est pas de prendre des risques en prenant le métro. C'est pas ça la société, ça n'a pas de sens. Une société normale, une société qui fonctionne au sens des philosophes, c'est le contrat social, cher à Rousseau. Ça veut dire qu'on doit exister et on doit ensemble exister, mais sans risque d'être tué.
Oui, mais ça précisément, j'allais dire, c'est par certains côtés, on a l'impression que c'est votre rôle d'avocat. C'est très singulier d'ailleurs pour un avocat. C'est la deuxième phrase de votre livre, de l'introduction. Vous dites, il s'agit, vous parlez de l'avocat commis d'office. Vous dites, il s'agit d'un sacerdoce ingrat et passionnant, d'un sacerdoce.
Oui, absolument. Parce qu'à vrai dire, on est d'une certaine façon, on est méprisé par les mises en cause, parce que ils nous payent pas, donc il y a certains.
Donc ça vaut rien.
On doit être nul puisqu'on est commis d'office. On doit pas avoir de cabinet. On doit être vraiment la lie du barreau. Donc il y a
c'est toujours sympathique.
Il y a ce mépris. Et puis, si vous voulez, les gens ne nous font pas confiance parce qu'ils se disent, s'il est commis d'office, il n'a pas suffisamment d'expérience pour pouvoir me renseigner. Donc, en fin de compte, il faut que j'ai une oreille face à lui, une oreille distanciée. Il faut que je me méfie de sa parole, ce qui est incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est passionnant par la richesse psychologique.
Oui, bien sûr.
C'est d'une profondeur sans nom.
« Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme on passe qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Qui vins à ma rencontre.
Esprit de Justice, toujours avec Maître Chevillard, pour parler des chroniques de garde à vue. Maître Chevillard qui nous a fait écouter cette célébrissime chanson de Jean Ferrat, chantant Aragon, que serais-je sans toi ? Qu'est-ce que serait une société sans avocat, Maître Chevillard ?
Ça serait une société...
Encore plus violente.
Encore plus violente et une société terrible, à vrai dire, terrible, parce que ça serait la loi du plus fort, et le plus fort, en général, c'est l'État quand même. Et les gens n'auraient pas de place, n'auraient plus de place.
Parce que vous dites, vous avez conscience que votre tâche, et on va revenir sur la subtilité de votre tâche, comme ça à chaud, quand les gens viennent d'être arrêtés, où ils sont tout d'un coup, ils ont basculé. Mmh. C'est un moment de bascule, la garde à vue.
Oui.
Et vous avez conscience que votre rôle est un enjeu essentiel, vous l'avez suggéré tout à l'heure d'ailleurs, et vous dites l'enjeu est de civilisation.
Oui, absolument, absolument. Il faut... Si vous voulez faire en sorte que la personne ait ses droits respectés en garde à vue, c'est très important. Et il faut que la société soit protégée. On est dans cet équilibre. On est dans cet équilibre parce que quelqu'un qui viole, quelqu'un qui tue, il faut une sanction. Il faut une sanction. Quelqu'un qui commet un vol avec violence, en réunion, et qui fait en sorte que la personne soit blessée terriblement par ce vol, il faut une sanction.
On pense par exemple à un cas que vous rapportez de deux jeunes qui frappent une handicapée en chaise et qui la laissent dans un garage.
Absolument, absolument. Et ça c'est terrible. C'est terrible parce que la personne a énormément souffert. Et puis, sans un automobiliste qui rentrait dans le garage, la personne aurait pu rester toute la nuit comme ça, dans ce garage. Parce que c'est à la suite, le fauteuil a été roulé par une pente dans le garage. Donc la personne seule n'aurait jamais pu sortir de ce garage. Donc, et puis elle ne pouvait pas se défendre. Cette personne ne pouvait pas se défendre. Et heureusement qu'il y avait un film. Alors c'était un jeune mineur. Et quand on lui a montré le film, il a été surpris de se voir commettre l'infraction parce que tout d'un coup, il a compris que c'était extrêmement grave et que la sanction allait apparaître. Et d'ailleurs, l'officier de police judiciaire, quand il m'a appelé en disant « il y a une dernière audition, maître, on a trouvé les films, il va manger ». Ça veut dire que l'affaire est cuite et que c'est grave, c'est extrêmement grave.
Mais en même temps, c'est extrêmement grave, effectivement.
Oui, 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 tout à fait. Oui.
Et comment on réagit à un avocat quand il doit défendre, accompagner judiciairement quelqu'un qui a fait un acte aussi répréhensible, aussi choquant ?
Alors le problème, c'est la parole du mis en cause. Parce que si il ne vient pas vers vous en disant « effectivement, j'ai commis cet acte », nous, on ne peut rien faire. Si il ne reconnaît pas les faits, il joue son destin. Il joue son destin. S'il est intelligent et il reconnaît les faits, on peut faire quelque chose même en l'espace d'une demi-heure, parce que moi, à la fin de son audition, je peux faire poser des questions ou je peux faire des observations. Si par exemple telle personne a perdu son père il y a 4-5 ans dans des circonstances extrêmement tragiques, ça peut peut-être expliquer une déviance à un moment ou à un autre. Donc moi, je peux l'aider. Mais si la personne ne fait pas d'effort vers moi et refuse de reconnaître les faits parce que la personne n'a pas la connaissance de l'enquête, nous, on a la connaissance de l'enquête et souvent, je mets en garde en disant « Attention, dans Paris, il y a beaucoup de caméras. Attention, les téléphones peuvent être géolocalisés. Attention, vous pouvez être sur écoute sans le savoir. » Il y a des éléments d'enquête qui sont extrêmement performants. Donc, si vous décidez de ne pas reconnaître les faits, soyez sûr de vous. Soyez extrêmement sûr de vous, parce que ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a l'un d'entre eux, vous pourriez nous raconter aussi l'histoire, qui a très bien compris votre message, qui reçoit 5 sur 5. On lui reproche un viol dans une voiture qu'il conduisait et il refuse de parler et il attend que la nuit se passe pour préparer sa défense, précisément.
Oui, alors là, c'était un garçon incroyable parce que c'est un manipulateur extraordinaire. Extraordinaire. Il m'a baladé, bon, ça c'est normal, mais il a baladé une DPJ, un district de police judiciaire, des gens qui sont 5 ou 6 au PJ sur un dossier, donc qui mettent les moyens de police judiciaire sur une procédure. Il a baladé les OPJ de la DPJ pendant presque 48 heures. Et c'est à la fin qu'on s'est rendu compte qu'il mentait depuis l'origine. Mais ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas parce que il avait un sens de la manipulation qui était extrêmement élevé.
Et convaincant.
Et très convaincant. Très, très convaincant. Parce que moi, quand je l'ai rencontré pour la première fois au début de sa garde à vue, il était en pleurs. Ce qui m'a alerté, mais sans m'alerter, c'est il me disait à chaque fois, mais combien je vais prendre? Combien je vais prendre? Je dis, écoutez, monsieur, vous ne connaissez pas les faits. Pourquoi vous me posez cette question? Vous ne reconnaissez pas les faits. Mais combien je vais prendre? Combien je vais prendre? Ça m'a alerté sans m'alerter, puisqu'il ne reconnaissait pas les faits. Et après, lorsque l'audition est arrivée vers 17h, il pleurait sans cesse. Il pleurait sans cesse. Et c'est une manipulation, si vous voulez, parce qu'il avait besoin de la nuit pour échafauder sa défense. Et le lendemain, il était extrêmement calme et il a raconté quelque chose de très plausible. De très plausible. Et lorsqu'ils sont allés chercher la victime, ça commençait à s'effondrer. Et lorsqu'il a parlé de sa maîtresse pour expliquer les traces de sperme dans la voiture, ça s'est encore effondré parce que la fille qui a été retrouvée a déclaré qu'elle n'avait jamais été sa maîtresse. Tout était inventé depuis le début et à tel point qu'il est parti en détention, je le mentionne pas dans la chronique, parce que j'ai rencontré l'OPJ par hasard après et je lui ai demandé ce qu'il était devenu. Il m'a dit il est parti en détention.
Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer que l'avocat en garde à vue, c'est l'empêcheur de tourner en rond, que les rapports avec les policiers sont rugueux, que les policiers sont pas contents de voir comme ça des personnes intervenir. Mais c'est pas votre expérience, Maître Chevillard.
Pas du tout, pas du tout. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant qu'on intervienne en garde à vue, les policiers ou la police judiciaire, les avocats, on était deux corps qui se regardaient en chien de faïence. On a appris à se connaître et les policiers se sont vite aperçus que l'avocat en garde à vue permettait de fluidifier la procédure. Il y avait nettement moins d'agressivité puisque, d'une façon préalable, on voyait les mises en cause et en les voyant, on faisait en sorte que le stress de la garde à vue retombe parce qu'on se projetait avec eux en disant voilà ce qui va se passer dans le futur, voilà ce qui va se passer. Et sans trop se tromper. Donc les gens qui avaient commis, qui étaient en récidive, etc., savaient qu'ils allaient partir en détention et ils demandaient à peu près combien je peux risquer. Et ayant l'habitude des comparutions immédiates, c'est souvent des gens ou des dossiers qui partent en comparution immédiate, on pouvait dire 5-6 mois, etc. Ils étaient rassérénés parce que sur 5-6 mois, avec les remises de peine, avec la possibilité de faire un aménagement de peine, ils savaient que sur 5-6 mois, ils allaient purger 3 mois au maximum ou 4 mois au maximum. Donc ils étaient rassérénés. C'était, si vous voulez, le risque encouru d'une certaine façon. Donc les policiers nous ont appréciés et nous, on a appris à connaître des hommes, des femmes qui ont une vie extrêmement banale, comme tout à chacun, mais dans des conditions difficiles. C'est-à-dire que des fois, dans les SAIP, les premiers services d'enquête de police judiciaire, on est 5 ou 6 dans le même bureau. Alors, un OPJ avec un gardé à vue, un autre, etc. Donc, c'est pas facile pour eux.
C'est facile pour personne d'ailleurs, parce que vous dites, il faut le voir très concrètement, j'allais dire, il faut le sentir, sans mauvais jeu de mots. Ouais. C'est quand même des locaux souvent très dégradés.
Ouais.
C'est des gens très dégradés qui parfois sentent extrêmement mauvais.
Ouais, absolument.
C'est, ouais. C'est quand même des conditions particulières, garde à vue. Hein.
Oui, absolument. Il y a des gens qui urinent dans leurs cellules. C'est terrible. Il y a des gens qui arrivent très malades. Un jour, j'ai eu un mineur qui avait la gale. Bon, voilà. Un jour, j'ai eu trois mineurs qui avaient l'hépatite C. Trois mineurs, trois filles. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué.
Et vous dites qu'au nouveau palais de justice de Paris, d'ailleurs, locaux flambant neufs, formidables, qui viennent d'être faits par des architectes de renom, très rapidement.
Oui.
C'est comme si les gens apportaient avec eux leur odeur.
Oui, ça c'est
comme terrible. Si la fonction même apportait son odeur.
Oui, absolument. En un mois, ça sentait comme dans tous les commissariats de France et de Navarre.
Ça sentait la prison.
Oui. C'est terrible, oui. C'est terrible. Ouais. Cette odeur de prison, c'est quelque chose qu'on reconnaît tout de suite.
Oui.
Et c'est malheureux quand dans le métro, je reconnais l'odeur de la prison.
Ah oui.
Quand quelqu'un passe à côté de moi, je reconnais cette odeur. Et quand j'arrive dans un commissariat, je reconnais cette odeur. C'est terrible. C'est terrible. Ouais.
Mais
c'est un marqueur.
Oui, c'est ça. Et c'est un des marqueurs les plus profonds. Comme on sait, le nez l'organe olfactif est celui qui est le plus archaïque de la reconnaissance. Je peux pas le sentir, etc. Mais ça veut dire que vous devez les sentir, vous devez les calculer, on dirait les jeunes. Il vous faut très rapidement comprendre une situation, comprendre une personnalité.
Très rapidement. Et il faut faire en sorte de savoir si la personne ment ou pas, ce qui est pas facile des fois, parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs, il y a beaucoup de personnes qui mentent, et il faut déterminer. C'est pour ça que je reviens souvent à la charge en disant, attention, êtes-vous sûr de vous? Il y a des éléments d'enquête qui peuvent aller à l'encontre de ce que vous allez dire. Réfléchissez bien.
C'est ça. Et alors, il y a aussi des gens, parce que vous disiez, vous êtes pas considéré par les gardés à vue. En fait, assez rapidement, je crois comprendre, pour pas mal d'entre eux, ils vous font confiance. Vous arrivez à gagner leur confiance.
Oui, parce qu'ils s'aperçoivent que, en fin de compte, si vous voulez, les éléments de l'enquête arrivent comme on l'avait prévu, que les questions arrivent globalement comme on les avait prévues, parce qu'en une demi-heure, on peut indiquer, on va vous demander ça, etc., etc. Et que, à la fin, si vous voulez, tout s'est passé comme ça avait été envisagé. Et tout d'un coup, ils se disent, mais cette personne, c'est incroyable. Elle a une expérience professionnelle qui est quand même louable.
Ça veut dire que pour être un bon avocat commis d'office en garde à vue, il faut bien sûr connaître le droit pénal, il faut bien connaître la jurisprudence des chambres, des tribunaux, il faut bien connaître la machine. C'est surtout
oui,
ça.
Il faut une vraie expérience de moins 10 ans. Bon, ce sont les jeunes avocats qui le font. Moi, je suis un vieil avocat, monsieur Garapon. J'ai prêté serment en 89. Mais il faut moins 10 ans d'expérience, parce qu'en 10 ans, vous apprenez la chaîne pénale. Il faut au moins 10 ans pour comprendre comment ça fonctionne, si vous voulez. Donc, il y a effectivement les études, le niveau d'études, et après, il y a l'expérience professionnelle.
Et pour comprendre comment ça fonctionne, un homme?
Alors là, il faut une vie. Peut-être que même une vie n'est pas suffisante, oui. Mais c'est la richesse de ces rencontres. Comment, par exemple, cette femme qui avait cassé l'assiette, une assiette dans un centre de secours, un centre d'hébergement de secours, qui dans une rage extrême par rapport à sa situation, avait décidé de casser une assiette de soupe ou de purée sur la tête de quelqu'un qui était aussi hébergé en urgence comme elle. Donc qui était dans la même situation malheureuse qu'elle, mais...
C'était plus fort qu'elle.
Oui, il fallait que cette violence sorte, il fallait détruire une autre femme, la blesser, lui ouvrir le crâne, parce que on ne supportait pas sa propre vie. Et c'était une personne, cette mise en cause, qui était au bord du suicide. Et j'ai eu un mal fou à la faire venir vers moi, c'était en comparution immédiate, elle refusait de parler, elle a refusé d'abord un avocat devant le procureur de la République, et le procureur de la République, lorsqu'il lui a notifié que telle ou telle infraction lui était reprochée et qu'elle allait être présentée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, a sursouligné « ne veut pas d'avocat ». Et par le plus grand des hasards, il y avait un interprète qui lui a dit « ça serait bien quand même que t'es un avocat ». Et c'est comme ça qu'en parlant, mais j'ai lutté, elle est restée silencieuse au moins 20-25 minutes, je lui ai posé des questions, j'ai lutté pour qu'elle vienne vers moi, j'ai réussi, et j'ai plaidé, elle est sortie libre, avec une... l'obligation de soins, et c'était le plus fondamental pour elle, c'est de se soigner, de ne pas s'oublier et de ne pas se haïr. Voilà le problème de ce dossier, c'était de ne pas se haïr. surtout ne pas se haïr. C'est incroyable comme destin. C'est une femme qui se haïssait. Elle haïssait son échec d'intégration en France.
Est-ce que c'est pas le lot de tous les exilés ou de plus encore plus des migrants? On parle beaucoup des migrantes comme une entité abstraite, mais on a maintenant quand même des études sur les camps de migrants et cette dégradation du statut à leurs propres yeux, et notamment pour les hommes d'ailleurs.
Oui, surtout dans une société de consommation. Une société de consommation où les vitrines sont allumées le soir, etc. Ce qui est anormal dans certains pays, des vitrines allumées le soir, des rues allumées, c'est absolument anormal. C'est quelque chose qui frappe toujours les gens qui arrivent d'autres pays que la France, que l'Allemagne ou l'Italie. C'est que les vitrines soient allumées, que les rues soient éclairées. Et ça les frappe et que les choses soient presque accessibles. Il suffit de les toucher pour les avoir. Et ça, cette frustration, c'est quelque chose qui, si vous voulez, qui fait en sorte que le cerveau n'arrive plus du tout à maîtriser la situation.
Et là, dans cet entretien que vous avez avec cette femme, vous montrez comment, en fait, vous construisez non seulement sa défense, mais vous construisez une sorte de dialogue, vous reconstruisez un dialogue avec elle-même qu'elle n'arrive pas à avoir.
Absolument. Oui, absolument, parce que j'ai compris à quel point elle s'en voulait de cette situation, et j'ai compris à quel point, si vous voulez, parce qu'elle a été, en plus, pendant le temps de sa garde à vue, la garde à vue a été suspendue, elle a été amenée à la préfecture de police de Paris en psychiatrie, parce qu'on savait pas trop à qui on avait affaire, et j'ai compris que, véritablement, elle était dans une souffrance extrême, et cette souffrance, elle ne pouvait pas en parler. Elle ne se donnait pas le droit d'en parler. C'est ça qui est, parce qu'elle arrivait d'un milieu, peut-être un milieu difficile, elle arrivait d'un pays où on ne parle pas de soi, etc., etc.
Ou au contraire, elle arrivait, comme beaucoup de migrants aujourd'hui, de classe moyenne, et pour lesquels ça représente une dégradation.
Et j'ai envie de rebondir par rapport à un des faits qui m'avait marqué, c'est un Polonais, j'ai pas donné sa nationalité, parce que bon voilà, j'avais pas, c'est quelqu'un qui était dans le métro, qui était à la recherche de femmes, à la recherche d'agressions de femmes. Oui. Ça c'est terrible. C'est terrible parce que...
La solitude sexuelle.
Non, il était marié avec un jeune enfant. Mais c'était un chasseur de proie.
Un vrai prédateur.
Voilà. Ça s'est passé en deux temps. L'agression s'est passée en deux temps. Je me permets d'en parler parce que c'est en discutant avec lui qu'on est arrivé à qu'il reconnaisse les faits. Et reconnaître les faits, c'est faire en sorte, d'une certaine façon, de plus les recommencer. Parce que, premier élément, il est dans le métro, il cherche une proie, une femme, il cherche. Il connaît le métro, il sait où se trouvent les caméras. Il connaît les zones où les caméras n'apparaissent pas. Il voit passer une blonde. Et cette blonde, il commence à la suivre. Elle se met dans le champ des caméras. Et là, son visage qui a été filmé se crispe parce que il ne peut pas obtenir cette proie. Et on voit la violence physique qu'il habite. C'est terrible. C'est terrible parce que s'il avait pu obtenir cette proie, ça aurait pu être un calvaire pour cette femme. Donc il est toujours à la recherche de femmes. Il voit passer une brune, et là, il la suit, il est pas dans le champ des caméras, il lui passe la main sous la jupe dans l'escalator, il lui touche le sexe, la femme fuit, lui fuit, et la femme se retourne en disant « je vais pas me laisser faire, je vais aller le trouver ». Et là, elle le trouve, elle le frappe avec ses pieds. Et c'est ça qui est incroyable dans ce dossier, c'est pour ça que j'ai plaidé sur ça, c'est que lui se laisse faire. Il se laisse recevoir des coups de pied.
Il se défend pas,
il se fait corriger. Il accepte la correction parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait que ce qu'il a fait est anormal. Et c'est comme ça que j'ai pu le libérer pour deux choses. D'abord, j'ai lutté pour qu'il reconnaisse les faits. Et il les a reconnus. À l'audience, il voulait pas reconnaître les faits. J'ai lutté pour qu'il reconnaisse les faits. Donc il les a reconnus et le procureur lui a dit « Enfin, monsieur, enfin !» Et puis surtout, j'ai plaidé sur ça, c'est que cette acceptation de la correction voulait dire qu'il savait que ce qu'il faisait était mal. Et donc c'est un point, effectivement, qui est un début, c'est un bon début, c'est ténu, mais ça permet de travailler, ça permet de faire en sorte que la société, si vous voulez, lui fasse confiance. Voilà. Donc ces expériences sont extrêmement riches, extrêmement riches.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui m'entiraille, le palais des autres jours.
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Et nous sommes toujours en garde à vue avec pour avocat Maître Chevillard pour nous sortir de cette horreur, de cette misère extrêmement humaine dans le fond dans lequel nous retrouvons et qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Noir, quoi, composée par Noir Désir et bien sûr Bertrand Cantat, mais qui était interprétée ici par Sophie Unger. Et le vent nous portera, le vent nous portera.
Oui. Loin, j'espère, loin, vers loin, le bonheur.
Vers le bonheur,
vers le bonheur.
Mais il y a beaucoup de violence, on l'a vu, des fois qui se terminent par des homicides, mais il y a aussi beaucoup d'affaires sexuelles qui sont particulières, très délicates, Maître Chevillard.
Oui, absolument, oui, je me souviens effectivement d'un jeune mineur qui était en rétention, il n'était pas en garde à vue, il avait moins de 13 ans, il était en rétention sur un recel de vol. Petit recel de vol. Moi, je parlais avec l'interprète. Lui était, il avait pas les menottes. Il était devant une cellule. Et derrière la cellule, j'avais pas vu. Il y avait un homme de 55, 60 ans, dégarni, assez replet, et qui lui tirait la langue. J'avais pas vu. Il tirait la langue vers ce mineur, comme s'il voulait d'une certaine façon, lui prodiguer une fellation. Et le mineur l'a vu. Et il a commencé à crier. Il a crié en arabe et moi je comprenais pas ce qui se passait. L'interprète ne comprenait pas. Le mineur tapait sur la vitre de la cellule de garde à vue et puis j'ai vu cet homme continuer à agiter la langue en face du mineur. Et c'était un spectacle effrayant. Effrayant parce que ce prédateur était en garde à vue sans doute pour une agression sexuelle. Et en garde à vue, il estimait que ce jeune mineur était une proie potentielle. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est comme si la garde à vue, c'est comme si la sanction ne servait à rien. La sanction à venir ne servait à rien. Et ça, de savoir qu'une société ne fonctionne pas normalement et qu'on ne peut rien faire face à ces hommes qui transgressent les lois de la société, si vous voulez, ça rend triste et ça rend pessimiste, il faut le reconnaître. Ça rend pessimiste.
Vous écrivez d'ailleurs, son esprit est déjà dans le viol, il le rêve.
Oui, absolument. Il voulait ce petit garçon. Il le voulait. Il le voulait comme une proie sexuelle.
Et alors, ce petit garçon, en plus, bon, là encore, ce petit garçon, moins de 13 ans, qui vient du Maroc,
qui est
complètement défoncé à la colle toute la journée.
Absolument. Absolument. Et qui ne veut pas retourner au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il aurait honte de retourner pauvre au Maroc. Et il m'a dit, si je retourne au Maroc, de toute façon, on va me battre. Dans la rue, on va me battre. Les gens vont me battre avec des bâtons. Parce que je vais fumer, je vais pas fumer, je vais inhaler de la colle et les gens vont me battre avec des bâtons. Donc je préfère rester ici. Et de toute façon, je ne peux pas retourner au Maroc en étant pauvre. C'est trop honteux.
C'est ça. C'est-à-dire 13 ans, déjà un exil, déjà une misère et une vie obérée.
Oui, et lorsqu'on a essayé un peu de parler de sa maman avec l'interprète, il s'est mis à pleurer comme un enfant qu'il est. Et il s'est essuyé avec son pull sale. Il s'est essuyé les yeux avec son pull sale. Et l'interprète lui a mis la main sur l'épaule pour lui dire « Bon, c'est pas grave, t'inquiète, etc. » Et c'est émouvant. C'est émouvant parce que c'est pas la place d'un gamin. C'est à 13 ans ou à 12 ans et demi, on doit pas dormir dans la rue à Paris. On doit pas inhaler de la colle. Et on doit pas être une proie sexuelle pour les violeurs parisiens.
Ce qui donne à penser des risques qu'il encourt quand il est seul dans la rue.
Absolument. Oui, tout à fait. Et lorsqu'il va grandir, quel va être son chemin? C'est ça le problème. Parce que il a été une proie. Est-ce que lui deviendra pas un chasseur? Parce qu'une fois qu'on abandonne l'identité de la proie, on a envie de se venger. On a envie de se venger de la société qui a laissé faire. Est-ce qu'il ne va pas devenir un chasseur à 25 ans? Est-ce qu'il va pas mettre un couteau sous la gorge d'une jeune fille? On n'en sait rien. Et on ne peut rien faire par rapport à ces situations. On ne peut rien faire. Dans le sens, et là je fais une parenthèse, Monsieur Garapon, qui est très importante. Tous ces dossiers, toutes ces gardes à vue, d'une certaine façon, c'est la faillite de l'État. C'est la faillite de l'État. À chaque fois, c'est la faillite de l'État. Je sais qu'on peut dire, mais l'État peut pas être surpuissant. Si, il doit être présent. Beaucoup plus présent, mais par les moyens.
Mais il l'est à travers la police.
Mais par les moyens, les moyens sont pas suffisants. Ce mineur doit pas dormir dehors. Souvent, j'ai croisé des mineurs qui ouvrent les portes pour dormir en hiver. Ils ouvrent les portières des voitures avec des tournevis pour dormir.
Dans la voiture.
Voilà. Pour se protéger du froid. C'est pas normal. Et je sais très bien qu'on ne peut pas tout faire, mais si vous voulez, on est dans un échec. Alors je dis que les familles marocaines, algériennes, tunisiennes prennent des risques parce que souvent, et il faut le savoir, souvent les familles envoient volontairement les enfants, les mineurs, en disant « En France, tu auras au moins un destin parce qu'ici, il ne se passera rien. Donc tente ta chance en France. » Mais c'est terrible, c'est terrible. C'est un cercle vicieux dont on ne sort pas.
Et alors il y en a un notamment qui probablement la première fois qu'il voit un avocat, il a été pris dans un vol en réunion dans le RER, et vous vous rendez compte que son désir de s'insérer, de travailler est absolument sincère.
Oui, et en plus le dossier tenait pas à son encontre, c'est ça qui est très important. Oui. C'est qu'il était avec quelqu'un, cette personne a volé sans doute, mais lui ne savait pas que cette personne allait voler. Il était extérieur au fait. Et lui, ce qu'il voulait simplement, c'est travailler, c'est réussir en France, avoir un petit appartement, gagner de l'argent et puis avoir une vie normale. Alors, et c'était sincère, oui. C'était profondément sincère.
Mais ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce dossier-là, c'est que les agents interpellateurs ont compris, parce qu'on entend tellement souvent au tribunal, oui, c'est mon copain, moi j'y étais pour rien, je savais pas ce qu'il allait faire, etc. Et en fait, la police se rend compte qu'il était
très très étranger au fait. Absolument. D'abord parce qu'il y avait une filature qui était en cours et on s'est aperçu, les policiers se sont aperçus que ça tenait pas à son encontre, mais ils ont quand même arrêté cette personne parce qu'ils savaient pas trop, etc. Mais les accusations sont tombées toutes seules.
Ouais. Mais finalement, c'est peut-être un service qu'ils lui ont rendu parce qu'il a pu ensuite rentrer dans un circuit avec le juge des enfants, non ?
Oui, absolument. Oui.
C'est ça l'état de droit. Vous parlez de l'État qui doit tout, mais là,
oui,
en l'occurrence,
l'État n'est pas assez, si vous voulez, il met pas assez de moyens dans les choses. L'État peut mieux faire. Il peut mieux faire. Et ça serait nécessaire. Une société au 21e siècle, c'est pas une société qui laisse faire cette délinquance comme ça dans Paris, surgir et faire en sorte qu'il y ait énormément de dommages.
Bien sûr, mais alors on va aller plus loin parce que vous nous aidez Thierry Chevrillard à aller plus loin. Je pense à ce dossier d'un couple particulier
extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que il y a un contrat entre eux qui est le sadomasochisme. C'est un contrat, ils sont majeurs tous les deux, elle c'est une soumise et lui c'est un dominateur. Ils acceptent, sauf que d'une certaine façon, je mets des guillemets, cette déviance, ils ne la maîtrisent plus. Parce que il y a les scènes de sadomaso qui sont encadrées dans le temps en disant voilà, mais après dans la vie courante, ces scènes translatent dans la vie courante. Et là, ils n'arrivent plus à fermer les moments, les périodes de sadomasochisme.
À encadrer.
Voilà, il n'y arrive plus. Et la vie courante devient une grande scène sadomaso. Et c'est là où tout explose. Parce que, d'une certaine façon, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le provoque en permanence. Et lui n'arrive plus à mettre de barrière. Donc, eh bien, il la violente. Elle le reprovoque. Jusqu'à faire une tentative de suicide. Et lui est obligé de la récupérer à la fenêtre. Et ce couple, qui était un couple qui commençait, si vous voulez, une histoire d'amour dans un cadre sexuel particulier, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Ils n'ont pas réussi à encadrer l'espace sadomaso.
Et ça se termine en garde à vue.
Avec des suspicions de violence graves sur elle.
Réelles.
Que lui ne maîtrisait plus.
Mais qu'est-ce que peut faire l'avocat? D'abord, qu'est-ce que peut faire la justice? Mais qu'est-ce que peut faire l'avocat dans ce cas-là?
L'avocat a suggéré une expertise psychiatrique concernant les deux. Parce que c'était la, si vous voulez, pour ce dossier, c'était la seule voie envisageable. Parce que pour l'homme, les faits étaient contre lui. Elle avait des blessures, mais dans un cadre sadomaso. Mais ce cadre sadomaso, vous ne pouvez pas le prouver. Donc, en fin de compte, les apparences étaient contre lui. Donc, la seule façon de faire en sorte de faire émerger ce cadre sadomaso, c'est l'expertise psychiatrique. Parce que l'expert psychiatre est à même de découvrir, si vous voulez, les envies profondes de la personne, de la femme.
Et ça, ça a été votre rôle d'avocat, c'est de le comprendre rapidement, de le proposer rapidement et finalement de proposer une solution à cette dossier.
Oui, dans un contexte extrêmement difficile parce que lui, l'homme, ne voulait pas de moi. Il avait son avocat attitré qui n'avait pas pu venir. Donc j'ai dû le convaincre d'abord que c'était important qu'il soit assisté et que je pouvais l'assister. Donc ça a été un combat pendant une demi-heure. Et après, pour tenter de le sortir d'affaire, je ne voyais que l'expertise psychiatrique.
Mais Maître Chevillard, ça montre bien quand même que dans ces dossiers-là, je continue de réfléchir à votre phrase, c'est l'État n'en fait pas assez. Mais pour vous provoquer à mon tour, je pense à toutes ces situations. Alors là, la situation ambivalente du couple sadomaso, cette situation incertaine et ô combien répandue de cette jeune fille qui s'alcoolise. Un garçon profite d'elle, quel est le consentement, où est l'abus?
Oui, alors là c'était un dossier incroyable parce que j'avais affaire à un garçon très intelligent, terminal littéraire, très bon milieu, très intelligent. Sa camarade de classe était aussi en terminal, intelligente, etc. Et toute la garde à vue, je n'ai pas su s'il avait manipulé cette jeune personne ou s'il avait été victime de cette jeune personne. Et je ne le saurais jamais puisque je n'ai pas suivi ce dossier.
C'est pas frustrant d'intervenir et de pas connaître la fin.
Pour lui, ça m'a frustré parce que j'aurais aimé savoir. Parce que s'il avait suffisamment d'intelligence pour manipuler tout le monde, c'est quand même dangereux. Mais il a pu être aussi manipulé. Mais c'est vrai que les faits, d'une certaine façon, étaient très ambigus parce que il avait invité cette jeune femme qui avait une propension à boire et il savait que lorsqu'elle buvait, elle avait un vocabulaire tourné vers le sexe. Lui n'a pas bu. Il savait que cette personne, cette jeune femme n'était pas vierge. Lui était vierge. Donc d'une certaine façon, à partir du moment où il n'avait pas bu, il y avait un calcul. Il y a quand même un calcul dans ce dossier. J'invite une personne qui va boire, et je sais qu'elle aime boire, et lorsqu'elle boit, elle s'oriente, son discours s'oriente vers le sexe. Moi, je n'ai jamais connu de femme, c'est l'occasion ou jamais. C'est très ambigu, cette situation est très ambiguë. Alors après, est-ce qu'il y a eu viol au sens du droit pénal? Je n'en sais rien.
Et qu'est-ce que vous avez plaidé, vous?
Là, j'ai pas plaidé, c'était
une
garde à vue.
Est-ce que vous avez orienté, quel a été le travail de l'avocat?
Le travail de l'avocat, ça a été de laisser faire la police judiciaire qui était, d'une certaine façon, comprenait pas comment fonctionnait ce dossier. Et au regard, si vous voulez, du choc émotionnel que représentait la garde à vue pour ce garçon, parce que ses genoux ont tremblé pendant toute l'audition, l'audition a duré 3 heures. Ses genoux ont tremblé. À un moment, il a fallu faire une pause, il n'arrivait plus à respirer. J'ai eu peur qu'on soit obligé d'appeler les pompiers. Je lui ai donné un gobelet d'eau et sa main ne pouvait pas le tenir. Sa main tremblait tellement que c'est moi qui ai tenu le gobelet d'eau pour qu'il boive. Donc c'est difficile à concevoir ce dossier dans le sens où je ne sais pas à qui j'avais affaire parce que c'est peut-être effectivement un faux viol comme ça peut être un vrai viol. Et c'est impossible de déterminer. En tout cas pour la police judiciaire, ça apparaissait pas comme un vrai viol.
Voilà. Oui. Alors, vous montrez ce rôle absolument central de la police judiciaire et aussi finalement que les rapports avec eux sont positifs et courtois. Mais parfois, ils respectent pas la loi. Ça arrive. Est-ce que vous avez rencontré des mauvais OPJ
Une fois, oui.
Une fois.
Ouais.
Ah oui. Et alors
Ben, je me suis un peu fâché. Alors, il y a eu beaucoup de tensions ce jour-là, beaucoup de tensions. Et pourtant, le dossier n'était pas un dossier propre. C'était un garçon qui faisait de l'extorsion de fonds sur des personnes vulnérables. Quand je dis vulnérable, au sens psychologique du terme, c'est-à-dire qu'il organisait de faux castings, il choisissait des jeunes femmes plutôt laides pour des castings sexy. Et une fois qu'elles se déshabillaient et qu'il les prenait en photo, il disait « t'es tellement moche que je ne pourrais rien faire de toi. Tu me fais perdre mon temps, t'aimer l'aide à mourir. Et donc, comme tu m'as fait perdre mon temps, tu me dois 700 euros. » Et les jeunes femmes qui pensaient avoir à faire un vrai casting d'ordre sexuel pour des photos, etc., étaient malheureusement...
Détruites. Et elles payaient.
Elles allaient avec lui au distributeur et elles sortaient 700 euros. Donc c'était un garçon qui était... j'ai pas trouvé le dossier très intéressant, j'aimais pas tellement sa façon d'agir. Le problème, c'est qu'il y a eu un renouvellement de garde à vue. Et lors du renouvellement de garde à vue, le renouvellement aurait dû être, je crois, vers 15h.
14h55, oui.
Et on me l'a notifié à 17h. En marquant l'heure du renouvellement de garde à vue.
Donc c'était quasi une provocation à l'égard de l'avocat.
Voilà, et quand j'ai vu ça, j'ai demandé à ce que le PV soit modifié. On n'a pas voulu, et donc j'ai fait marquer 14h55 par le...
Pour terminer, Thierry Chevillard, pour terminer cette promenade terrible, tragique, parfois drôle, dans les coulisses de nos sociétés, vous dites assister à des gardes à vue, c'est autopsier le corps social.
Oui, absolument. Oui. C'est voir tout ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a forcément une réflexion sur ce qui ne fonctionne pas. Et il faut trouver des solutions à ce qui ne fonctionne pas. On peut pas laisser une société, si vous voulez, qui d'une certaine façon se délite en permanence et se délite de plus en plus. Parce quelle est notre place dans cette société qui se délite? Est-ce que c'est une place où on va se faire tuer? Est-ce qu'on va se faire voler, etc., etc.? C'est pas notre place. Nous, on a envie de vivre normalement.
Donc, il nous faut des avocats.
Absolument.
Merci beaucoup, Thierry Chevillard.
Merci, Monsieur Garapon.
Esprit de justice, Thierry Chevillard, Julien Douminc, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 21h. À bientôt.